Massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord. Beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour. Julien est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 427 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Notre invité du jour a présenté en octobre dernier une conférence intitulée « Femmes bretonnes impressionnantes ». Elle devait à nouveau la présenter la semaine prochaine à Sautron à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Ce ne sera pas possible en raison de la crise sanitaire, mais ce n'est que partie remise. Pendant la pandémie mondiale, Alternante FM continue de fonctionner et dans cette émission, nous allons donc pouvoir vous présenter quelques-unes parmi une centaine de ces femmes bretonnes impressionnantes. Jannick Frey, bonjour.
Bonjour.
Alors Jannick, tu avais proposé la conférence intitulée « Femmes bretonnes impressionnantes » en octobre. Ce jour-là, tu avais présenté rapidement une centaine de ces femmes. Alors, une première question, quelle est ta définition d'une femme bretonne ?
Bon, en priorité, une femme bretonne, c'est une femme qui habite en Bretagne. Mais il y a des bretonnes dans le monde entier. Donc c'est aussi des bretonnes qui se sont expatriées. Ce sont aussi des personnes qui viennent régulièrement, comme par exemple Madame de Sévigné, qui n'était pas bretonne d'origine, mais qui habitait très longtemps en Bretagne.
Donc voilà, c'est très vaste en fait.
Voilà.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'elles sont impressionnantes ?
Ce qui fait qu'elles sont impressionnantes, c'est parce que justement, les femmes, pendant longtemps, n'ont pas eu de pouvoir, donc on n'en parle pas beaucoup, mais les Bretonnes avaient quand même ce côté un petit peu particulier, c'est qu'en fait, quand les hommes étaient partis, elles devenaient des matriarches, des chefs de famille, parce que les hommes partaient en mer, et donc... C'est une société matriarcale. Et puis bon, elles ont fait quand même celles dont je parle ont fait des choses qui sont surprenantes, étonnantes par rapport aux autres femmes. Voilà.
Donc par exemple, celle qu'on va entendre maintenant, parce que dans ces femmes, il y a des chanteuses, et évidemment, on va entendre les célèbres sœurs Goadec.
La 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 la
À Roarezet Goadec, les sœurs Goadec, donc les célèbres sœurs Goadec, c'est toujours ce qu'on dit quand on parle des sœurs Goadec, on dit les célèbres sœurs Goadec, donc évidemment des chanteuses bretonnes. On va parler de femmes bretonnes impressionnantes, mais pour toi, Jannick, l'important, c'est aussi le mot Nantes dans impressionnante.
Tout à fait, voilà. Donc j'ai hésité entre impressionnante, étonnante, déterminante, fascinante, parce que moi, je suis née à Nantes. Donc j'ai habité toute ma jeunesse sur l'île de Nantes, dont une partie justement s'appelait Sainte-Anne, l'île Sainte-Anne. Bon, ça a été comblé, donc on n'appelle plus comme ça. Je suis allée au collège Aristide-Briand, puis après au lycée Guistot, à la fac de lettres de Nantes. Et mes ancêtres, par contre, étaient originaires de Carreau, Josselin, Pontivy, Redon. Et je suis partie en exil à Toulouse pendant 10 ans. Et donc, mon amour pour Nantes a redoublé quand je suis revenue sur Nantes.
Voilà. On dit souvent que les Bretons se sentent Bretons quand ils partent de Bretagne.
Exactement.
C'est ce qui t'est arrivé,
voilà,
à toi aussi.
Voilà, parce que mon fils qui est né à Toulouse s'appelle Erwan, et ma fille qui est née à Toulouse s'appelle Gwenaëlle.
Voilà. Oui. Bon, donc, tu es restée bretonne à l'extérieur.
Oui.
Et tu vas nous parler de femmes bretonnes. On ne va pas parler de toutes les femmes que tu avais présentées dans ta première conférence, mais il y en a une qui avait beaucoup sur surprise, c'est la première dont tu as parlé et ce sera la première aussi. Alors, elle s'appelle Boudica.
Voilà, Boudica. Donc, en fait, elle est née aux environs 30 et 60, elle est morte en 61 et c'était une reine celte. Alors, bien sûr, comme nous les Bretons, nous avons des origines, nous sommes tous des Celtes. Donc, on l'a appelée aussi la Vercingétorix anglaise. Donc, l'historien Dion Cassius l'a décrit comme une grande, terrible à voir et dotée d'une voix puissante et de race royale. Donc, elle était la reine des Icénies. Et Tacite l'a décrit justement comme une chef de guerre et une prêtresse. Bon, évidemment, tout ça, c'est avec des points, c'est un peu une légende. Elle a eu 2 filles, Isolda et Soria. Elle fut battue par les Romains, donc, et ses filles violées. En représailles, elle prit les armes contre les Romains. Elle fut vaincue et puis donc elle est morte. On ne sait pas si c'est suicide ou empoisonnement. Mais comme elle est quand même très connue en Grande-Bretagne et en Bretagne. Voilà,
oui,
Grande-Bretagne
parce que donc,
et Bretagne.
Elle est bretonne de l'île de Bretagne,
voilà.
Quand c'est avant la Grande-Bretagne.
Voilà, voilà.
Alors donc, qui est la deuxième personne que tu as voulu mettre en avant, parce que ton idée, c'est vraiment de valoriser ces personnalités bretonnes.
Alors là, c'est une Nantaise. Constance de Théis, c'est un petit peu une de mes chouchoutes. Elle est née à Nantes en 1767 et elle est surnommée la muse de la raison ou bien le boileau des femmes. Elle fut poétesse, salonnière, écrivaine. C'était une femme engagée, passionnante, reconnue pour ses qualités littéraires. Elle est jalousée et méprisée. Donc sa réponse est l'Épître aux femmes, écrite en 1797, qui fut un véritable succès. Donc je vous conseille d'aller sur Internet et d'aller lire l'Épître aux femmes. C'est plein de poésie et c'est très beau. C'est une féministe plus nuancée qu'Olympe de Gouges, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Et Constance de Théis dit justement dans ses poèmes « Les temps sont arrivés, femmes, éveillez-vous. Différence n'est pas infériorité. » Elle prône une égalité harmonieuse entre les femmes et les hommes dans l'instruction et les tâches quotidiennes. Son portrait, si vous voulez, est un très beau portrait, si vous voulez aller le voir, est à l'Institut d'art de Chicago. Et je voudrais juste terminer
sur... On peut le trouver sur Internet, je suppose,
oui,
on n'est
oui,
pas
oui.
obligé d'aller
voilà.
à Chicago.
Non, on peut, voilà. Et je voudrais juste faire un parallèle avec Mary Wollstonecraft, qui a écrit « A Vindication of the Rights of Women », qui a été écrit en 1792. Donc on a un petit doute, on se demande, parce qu'on sait que Mary Wollstonecraft est allée à Paris, donc peut-être qu'elle a rencontré Olympe de Gouges, et peut-être aussi que ça en est inspiré Constance de Théis.
À Constance de Théis, n'a pas fini sur l'échafaud comme Olympe
non,
de Gouges.
Non, pas du tout, pas bon, du tout. Voilà.
Ça, c'est une histoire qui finit bien.
Oui, 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 oui.
Et donc peut-être une troisième personne, parce que déjà on est impressionné par les deux premières.
Bon, alors donc aussi, moi je trouve que des femmes qui sont
impressionnantes,
passionnantes, rayonnantes. Donc je parlais de Nathalie Lemel, née à Brest en 1826. Elle est morte à Ivry en 1921. Ce fut une révolutionnaire engagée. Vers 1860, elle est libraire à Quimper. En 1871, elle va militer, se battre sur les barricades pendant la Commune. Elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Et là, elle aura pour compagne Louise Michel. Elle est graciée, elle revient en France et elle devient journaliste. Elle est syndicaliste et féministe. Elle est morte à 95 ans.
Oui, c'est ça qui est impressionnant. Moi, c'est Nathalie Lemel, j'aime beaucoup ce personnage. J'aurais aimé la rencontrer. Il y a quelques images de cinématographe de Nathalie Lemel. Je ne sais pas si tu les as vues.
Non.
Elle est très âgée. Ça a été filmé en 1913 ou 1914 par un cinéaste anarchiste qui a voulu faire le portrait des dernières communardes. Et on trouve, tu peux chercher, on trouve
oui.
des images de Nathalie Lemel, donc très âgée.
Oui.
Pas comme son portrait le plus connu. On la retrouve dans La force de l'âge.
Oui.
Et elle avait vraiment une très grande force. Voilà. Bon, alors après ces trois personnes, on revient à quelqu'un de contemporain, une chanteuse que tu aimes beaucoup, soyons clairs.
Oui, 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 donc qui est pas mal décriée. Mais moi, je trouve que c'est une chanteuse que les jeunes aiment beaucoup. Alors, il y a plein de... Allez, je ne vais rien dire. Mais elle est critiquée par certains plus... Mais moi, j'aime beaucoup. D'abord, elle a quand même chanté pour le match de... Oh, c'était en quelle année, Yves ? Elle a chanté au Stade de France, quand même.
Oui, pour le match, le premier match Rennes-Guingamp.
Oui, voilà. Et donc, moi, j'ai vu des vidéos. Elle soulève quand même les foules. Elle les fait chanter avec elle, danser avec elle. Voilà, mais moi, j'aime bien.
Et elle a fait un album... qui s'appelle Bretonne,
Bretonne
dont
voilà.
on va écouter un voilà. extrait, Ma Bretagne quand elle pleut.
Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre. Près du feu, qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux, qu'elle est belle, ma Bretagne. Petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se se souviennent des barques qui jamais ne reviennent. Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'on est vieux. Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Qu'elle est belle ma Bretagne.
Évidemment, Nolwenn Leroy, on n'avait pas dit son nom avant de l'annoncer le disque, mais vous avez toutes et tous deviné que c'était Nolwenn Leroy, certes dénigrée, mais qui a fait un très bel album qui s'appelait Bretonne, dont on a écouté un extrait, et même pour les fans, je peux vous dire qu'on va écouter un deuxième extrait tout à l'heure de ce disque, parce que toi, Yannick, tu aimes beaucoup Nolwenn Leroy, et tu as le droit. Donc, le droit d'ailleurs, on peut parler de droit, là, quand on parle de ça, parce qu'on parle, on fait cette émission à l'occasion du 8 mars, qui est la journée des droits des femmes, et c'est important, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes, et il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Alors, c'est pas que des femmes qui se sont battues dont on parle aujourd'hui, mais des femmes qui ont été importantes, qui ont été des modèles. Et là, maintenant, on va parler de Rose Erré.
Alors
qui est-elle?
Parce qu'elle n'est pas du tout connue. Et alors, pour moi, c'est une grande héroïne. Voilà, une des femmes bretonnes fascinantes. Rose Erré est née à Ouessant en 1862. Donc, on l'appelle l'héroïne d'Ouessant. Elle a sauvé l'équipage du Vesper en 1930, au péril de sa vie. C'était une frégate, un navire rempli de fûts de vin qui venait de Tunisie. Elle n'a pas hésité à se jeter dans l'eau froide pour aller récupérer le canoë des survivants. Et donc, elle fut reçue et décorée à Brest. Une vedette porte son nom et sur Internet, il y a un petit film sur elle. Voilà. Et je suis très contente d'en parler, voilà.
Voilà. Donc il y a des femmes très dynamiques, très sportives aussi, comme Alice Millia.
Voilà, Alice Millia.
Alors, elle est terrible.
Alors voilà, alors Alice Millia, alors elle est née à Nantes en 1884, grande sportive, polyglotte, enseignante, pratiquant l'aviron et le hockey. Et elle a osé défier le misogyne Pierre de Coubertin, qui refusait d'inclure les épreuves féminines d'athlétisme. Alors évidemment, vous devez bien vous douter quand même que je rends fémage à toutes ces femmes. Je sais que fémage est un néologisme, mais j'assume. Donc, je rends fémage à toutes ces femmes, voilà. Et évidemment, je suis quand même pour la Bretagne, je m'investis pour la Bretagne, mais aussi pour le féminisme, vous vous en doutez. Voilà. Donc, en 1922, elle organise les Jeux mondiaux féminins à Paris. En 1926, à Göteborg, en 1930, à Prague, en 1934, à Londres, et à partir de 1928, les épreuves féminines sont disputées aux Jeux olympiques.
Donc, elle a gagné une cause, voilà. La cause des femmes. Une autre femme extraordinaire, donc qui est là, qui est de Basse-Bretagne, c'est Joséphine Pencalet.
Joséphine Pencalet, voilà. Qui est née à Douarnenez en 1886. Ouvrière, elle participe aux grèves des sardinières en 1924. Qualifiée de meneuse, Joséphine Pencalet, Pencalet voulant dire en breton « tête dure ». Elle siège au comité de grève. En 1925, elle est élue conseillère municipale sur la liste du PCF, Parti communiste français. Mais les femmes, n'ayant pas droit de vote, son élection est annulée car elle n'était pas éligible. Alors je rappelle, entre parenthèses, qu'en 1918, les femmes ont eu le droit de vote en Grande-Bretagne. Il a fallu attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de voter en France. Juste une petite précision encore, les boîtes en fer blanc dans lesquelles étaient stockées des sardines étaient moulées dans les forges de Bassindre. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Bassindre, c'est au sud,
c'est la commune d'Indre.
Une commune près de Nantes, voilà.
Voilà, donc en effet, les poissons de Douarnenez étaient dans des boîtes de conserve de Nantes.
De Nantes,
voilà.
Fabriquées à Nantes.
Voilà. Alors, on va écouter quelqu'un dont on ne sait pas qu'elle est bretonne, dont on a oublié qu'elle est bretonne, et pourtant elle est née en Bretagne, c'est Berthe Silva.
Une si biche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'envines bien la cause. Que je te demande une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise, ni de goutte dorée. C'est tabac-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût. Dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, ah, je peux bien vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça monte en moi. Ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche. Dans la fumée qui sortira de ma bouche.
Du gris par Berthe Silva. Berthe Silva, connue comme une grande chanteuse réaliste, surtout des années 30, les années où elle a enregistré avec très grand succès, c'était une grande vedette dans les années 30, est une chanteuse bretonne puisqu'elle est née à Lambézélec, qui à l'époque était une commune à côté de Brest, qui est maintenant un quartier de Brest. Elle est née en 1885 et elle a été vedette sur les 15 dernières années de sa vie. Et ce qui nous fait dire que les chanteuses réalistes des années 30 en France, il y avait surtout deux bretonnes, Berthe Silva et Fréhel. Bon, Fréhel ne cache pas ses origines en ayant pris ce pseudonyme, mais c'est important de le savoir aussi parce qu'elle avait une enfance assez pauvre à Brest et elle est devenue une chanteuse réaliste. Il n'y a peut-être pas de secret. Justement, elle a vécu tout de suite, il a fallu qu'elle travaille et tout. Donc aussi, la différence peut-être entre les hommes et les femmes dans l'histoire des quelques centaines de dernières années, c'est que l'éducation était plus proposée aux hommes qu'aux femmes.
Oui. Même, à une certaine époque, c'était même interdit. L'éducation était interdite aux femmes. Elle ne pouvait pas du tout Alors, sauf peut-être les premières années, d'autres aller à l'école élémentaire, c'est tout. Mais après, c'était pas possible.
Voilà. Alors là, maintenant, on va parler pour terminer, de trois femmes cultivées, en commençant par une Nantaise.
Oui, j'ai essayé d'alterner, hein, exprès. Oui. Bon, voilà. Je vous rappelle évidemment que les Nantaises sont bretonnes, évidemment. Voilà. Donc, je vais parler de Claude Cahun. Claude Cahun est né à Nantes en 1894. Son nom de naissance est Lucie Schwab. Ce fut une écrivaine, poétesse, photographe, plasticienne. Son père était propriétaire et directeur d'un grand journal nantais, Le Phare de la Loire. Elle commence à écrire à 20 ans. Elle change son nom en Cahun. Cahun en fémage à sa grand-mère paternelle et Claude en hommage à son grand-oncle paternel écrivain. Ce qui l'intéresse n'est ni le masculin, ni le féminin, mais le neutre, l'épicène. Alors, c'est devenu un grand mot en ce moment, on en parle beaucoup, l'épicène. Elle se rase la tête. Elle étudie à Nantes, puis s'installe à Paris avec sa compagne, Suzanne Malherbe, qui change son nom en Marcel Maure. Elle est aussi plasticienne. Elle participe au groupe surréaliste d'André Breton. Elle combat toute forme d'asservissement. En 1937, elle quitte Paris pour l'île de Jersey. Entre 40 et 44, elle est résistante. Elle fut arrêtée, condamnée à mort. Elle échappa à l'exécution. Elle est morte à Jersey en 1954.
Alors, une autre femme qui n'était pas bretonne d'origine, mais qui a bien gagné ses galons de bretonne dans la vie.
Anita Conti, née Cara Kotchian en 1899. Origine arménienne du père. Elle fut photographe et première femme océanographe. Elle voyage beaucoup avec ses parents. Grande partie de sa vie sur l'eau, souvent avec des pêcheurs. En 1914, elle se réfugie à l'île de Léron. Elle y fait de la voile, elle lit, elle réalise ses premières photographies. Ensuite, elle va à Paris, où elle exerce le métier de relieuse d'art. Elle embarque sur des haranguiers pour observer le quotidien des travailleurs de la mer. Elle dressera des cartes de zones de pêche. En 1940, elle prend part à l'évacuation de la poche de Dunkerque. Pendant 10 ans, elle étudie en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, la nature des fonds marins, les rivages, les estuaires, les différentes sortes de poissons et leurs valeurs nutritives. En 1952, elle embarque sur le chalutier Saleur, bois rosé, et partage la vie des pêcheurs de Terre-Neuve. En 1953, elle publie « Racleur d'océan » pour témoigner. En 1957, « Géant des mers chaudes », elle y raconte son expérience en Afrique.
Et on va terminer, parce qu'il faut terminer cette émission qui ne dure qu'une demi-heure, avec une contemporaine, une autrice contemporaine, Irène Frein.
Voilà, Irène Frein, qui est née Irène Le Pohon à Lorient en 1950. Femme de lettres, romancière, journaliste, elle est membre fondateur de Women's Forum for the Economy and Society. Elle a écrit « Un crime sans importance » pour raconter l'histoire de sa sœur assassinée. Donc, si Yves veut ajouter des choses, c'est lui qui m'a donné le titre, là.
Oui, elle a écrit Le Nabab. Le Nabab, qui est son livre le plus connu, un très grand succès de librairie.
Alors, tu m'as parlé de René Madec, c'est-à-dire...
René Madec, c'est le héros du Nabab. Je ne peux que conseiller aux gens de lire ce livre et les aventures de René Madec. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jeannick, d'être venu nous présenter quelques personnes. J'espère que dans l'avenir, nous aurons l'occasion peut-être même de faire une chronique sur les femmes bretonnes.
Oui, puisque j'en avais sélectionné 114.
Alors, on termine avec ta chanteuse préférée, oui. Soyons clairs. Donc, Nolwenn Leroy.
Chanteuse bretonne préférée, oui. Voilà.
Nolwenn Leroy, rentrée en Bretagne. Eh bien, on est toujours en Bretagne, on n'a pas besoin d'y rentrer. Oui. Elle chante rentrée en Bretagne.
Moi, j'y suis rentrée en Bretagne après 13 ans d'exil, quand même.
Bien, au revoir, Kenavo.
Merci, Kenavo.
Du sucre, roc de sucre. dans l'air. Voir du train à travers la vie, les premières cheminées mégalithes, par la fenêtre entrouverte, rentrer en Bretagne.
Rentrer en Bretagne.